chalis m'était compté. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous voici partis pour un dernier voyage en compagnie d'Hippolyte d'Est pour évoquer ce prélat fastueux, ce mécène fastueux. Eh bien, nous allons évoquer ce qui représente une des œuvres majeures de la Renaissance en France, les fresques de Primatis qui se trouvent donc à l'intérieur de la chapelle Sainte-Marie de Chalis, devenue chapelle royale, ce que nous avons vu là, à la dernière émission. Primatis, Serlio sont deux artistes qu'Hippolyte va faire venir à Chalis. Alors, Serlio, j'en ai parlé déjà rapidement, c'est un architecte, mais c'est surtout un théoricien de l'architecture. Et il va publier 7 livres concernant la géométrie, la perspective, l'étude des ruines romaines, les arts classiques, l'étude des différents modèles de temples. Mais aussi, il va faire des études comparatives d'architecture domestique en France, en Italie, etc. Et puis, chose peut-être qu'on peut ajouter, il va donner des dessins pour l'hôtel de Ferrare, donc qui se trouve, je vous rappelle, juste en face de Fontainebleau, du château royal de Fontainebleau. Hôtel de Ferrare ou Grand Ferrare, c'est la même chose, à destination d'Hippolyte, pardon. Mais aussi, pour les gens qui aiment un petit peu la Bourgogne, je les engage à aller voir le château d'Ancy-le-Franc, qui se trouve à côté de Tonnerre, et qui est une pure merveille, née du dessin, là, on le sait, de Sebastiano Serlio, et qui vaut bien les châteaux de la Loire. Voilà, sans être partisan. Oh, quoique, un petit peu quand même. Il faut être honnête. Et le deuxième artiste, bien sûr, c'est Primatis. De mon temps, on disait le Primatis. C'est oui. Fini maintenant. On est beaucoup plus direct. Primatis, François Primatis, par exemple, ou Francesco Primatis. Donc, il est né en 1504 à Bologne. Donc, c'est un Italien au sens actuel du terme. On va le trouver dans différents ateliers, j'en ai retenu deux ou trois. Celui de Bagnacavallo, ça veut dire bain de cheval en anglais, oui. En italien. C'est son nom propre, hein. c'est son nom de famille. Bagnacavallo, et on a pensé longtemps que les fresques de Chalis étaient de Bagnacavallo, ce qui n'est pas innocent non plus. On va le retrouver surtout dans l'atelier de Romano et de Mantegna. Bon, je vous passe aussi du travail qu'il va faire à Fontainebleau. Il quitte en gros Fontainebleau vers 1532. Mmh. Et avant de gagner Fontainebleau, il fait déjà un détour par Bruxelles. Bruxelles, c'est la peinture. Bruxelles, c'est pas loin les Pays-Bas, qui plus tard auront leur indépendance. Peinture flamande. Hein. Bruxelles, ce sont les tapisseries. Et on a raison d'en reparler. La tapisserie joue un rôle majeur à cette période. Peut-être beaucoup plus que la peinture, en tous les cas. Et donc, on va le retrouver très rapidement à Fontainebleau. Dans les années 1533, il commence la décoration de la chambre du roi. Puis en 1534-1537, c'est la chambre de la reine. On va le retrouver en train de faire des stucs dans la galerie François Ier. Le stuc, c'est un matériau composite, si vous voulez, qui est facile à mouler, dont le produit essentiel est la poudre de marbre. Donc on peut faire des moulages de corniches et de sculptures aussi. Ensuite, il va participer à la construction de la porte dorée, de la galerie basse du château Fontainebleau. Peut-être un des endroits où il s'est mieux exprimé la chambre de la duchesse d'Étampes. Enfin, je ne vais pas continuer, évidemment. La galerie d'Ulysse au château de Fontainebleau. En tous les cas, jusqu'en 1570, date de sa mort, on peut considérer qu'il est vraiment le décorateur et plus tard le responsable de tous les monuments royaux. Des monuments qu'on va retrouver aussi un peu plus tard à Paris, bien entendu. Pour ce qui est de la peinture à fresque à l'intérieur de la chapelle, tout d'abord Hippolyte, je rappelle, l'Italien, s'il veut faire preuve évidemment de luxe, s'il veut étonner la cour, bien il va faire une peinture à l'italienne, à la fresque. Peut-être faut-il revenir un petit peu sur la façon dont on peint à fresque. Quand vous rentrez dans la chapelle, vous allez vous retourner, vous allez voir ce qu'on appelle la contre-façade. Et là, oh, surprise, on ne voit plus la rosace. Oui. La rosace qu'on voit à l'extérieur a été complètement occultée. afin de disposer donc au revers de la façade d'une grande surface de 17 mètres de hauteur sur laquelle on va pouvoir installer une annonciation. On verra qu'il n'y a pas qu'une annonciation, il y a autre chose également sur la contrefaçade, mais on en fera la description un peu mieux tout à l'heure. Y avait-il des fresques sur la partie basse des murs qui soutiennent les vitraux ? On n'en sait rien. Il est probable qu'il y avait des éléments sculptés au Moyen-Âge, mais les destructions successives ont fait qu'au XIXe siècle, on va peindre avec une peinture traditionnelle, comme à la Sainte-Chapelle, vous savez, une tapisserie en trompe-l'œil. Oui. Et puis au-dessus, comme Madame de Vatry, qu'on évoquera un peu plus tard, est tout à fait dans le style Viollet-le-Duc, eh bien, elle va demander aux historiens de rechercher tous les abbés de Chalie et leurs blasons. Autrement dit, quand vous arrivez dans la chapelle, au-dessus des rideaux, vous avez toute une série de blasons, vous pouvez faire le tour, et vous pouvez découvrir ainsi les abbés de Chalie depuis 1137, pardonnez-moi, jusqu'en 1789, date officielle, évidemment, de la confiscation des biens de l'Église. Cette fresque, donc, on va d'abord, ce mur de pierre, donc, on va d'abord le recouvrir par un enduit assez grossier. Un enduit, bah, c'est du sable et de la chaux, hein, tout simplement, avec des gravillons assez grossiers. Donc, on va talocher, on va attendre. Et puis, on va repasser avec un deuxième enduit, où le sable sera beaucoup plus fin. Et puis, on va attendre. On va attendre que ça sèche. Je n'aime pas trop l'expression sécher. En réalité, ce n'est pas une question de séchage, c'est une question de réaction chimique qui va s'opérer lentement, de cristallisation en quelque sorte, qui va faire que le matériau, petit à petit, va durcir et tenter d'être inaltérable en quelque sorte. Et puis, on peut continuer avec un enduit, et là, au contraire, avec un sable très très fin. Pour les gens qui ont fait du carrelage, ils savent très bien que pour faire les joints, on n'utilise pas un gros sable, bien au contraire. Hein, on utilise là encore un sable très fin. Mais on ne va pas tout faire d'un seul coup. Pourquoi ? Parce que sur cette dernière couche d'enduit très fin, taloché très serré, hein, on prend une planche là et on fait des cercles pour bien serrer ces grains de sable avec la chaux, eh bien, on va peindre. Mais on ne peut pas tout peindre d'un seul coup, vous imaginez. Il faut peindre sur un enduit frais. Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, à fresco. Fresque, frais. Donc on ne peut peindre que lorsque l'enduit est encore frais. Et on a une journée pour le faire. Alors, si vous devez peindre un visage, eh bien peut-être que vous n'en peindrez que la moitié. Parce que c'est quelque chose de très précieux. Si vous devez peindre un carrelage, vous pouvez faire une surface 10 fois plus grande. Parce que là, vous êtes dans des traits faciles à reproduire, etc. On va peindre sur cet enduit frais avec un mélange d'eau et de pigments, de colorants naturels en général, qu'on a pu analyser à Chalie, et je vous en parlerai tout à l'heure. Donc c'est une espèce d'aquarelle, si vous voulez, en quelque sorte. Mm-hmm. Les pigments, il n'y en a pas de nombreux à Chalie. Hein. On va retrouver des pigments violets, verts, ocre, un petit peu rouge, mais de la période de Primatis, c'est très simple. Certains pigments ont tendance à paraître transparents, c'est la nature même du pigment qui fait qu'on est obligé de le délayer beaucoup, donc sont transparents. Bien, je ne reviens pas là-dessus, mais voilà comment petit à petit cette fresque a été installée sur la contrefaçade. Alors, est-ce qu'on invente ? Est-ce qu'on dessine avant ? C'est difficile de dessiner avant sur un enduit frais. Hein, vous allez mettre vos doigts dans la soupe, là. Non, alors, il faut savoir qu'avant même de commencer, il y a eu tout un travail qui a été fait avec l'artiste, on l'appelle l'artiste, entre donc Hippolydès et Primatis, tout a été indiqué. Je veux tel personnage de telle taille, qui fait ceci, qui fait cela, et surtout avec tel pigment. Oui. Et là, j'en reviens sur une chose extrêmement importante. Quand vous êtes du Moyen-Âge, quand vous êtes de la période de la Renaissance, alors le pigment a vraiment une importance et la valeur du pigment. On verra que le rouge, qui est fourni à ce moment-là par un insecte qu'on appelle la cochenille, est de loin le pigment le plus cher qui existait à cette période. Donc si vous voyez un personnage peint en rouge avec ce pigment cochenille, vous savez automatiquement que c'est un personnage important.
Très important, oui.
Et c'est la même chose si vous voyez un personnage avec un bleu lapis lazuli, c'est-à-dire cette pierre égyptienne qu'on broie et qui donne un aspect de bleu foncé plutôt. Mmh. C'est difficile de parler teinte, hein, parce qu'on ne voit pas la même chose. Là encore, c'est comme le parfum, on ne sent pas la même chose, on est tous différents. En tous les cas, si on voit quelque chose en lapis lazuli ou bien en smalt, on verra ce que c'est un bleu de Prusse, pour simplifier. On sait que c'est un personnage important, etc. Si on a une terre verte plus classique, évidemment, ça sera différent. Donc là, auparavant, on a déjà déterminé la taille des personnages, le nombre des personnages, la nature des pigments, etc. etc. Il y a un véritable... C'est l'appel d'offres et le devis qui va suivre. Mm-hmm. Et c'est grâce à ça qu'on connaît parfois beaucoup mieux, évidemment, les œuvres qui ont été installées dans différents bâtiments. Je parle bien sûr des fresques. Il n'y a pas de hasard. On ne laisse pas, comme maintenant, l'artiste faire ce qu'il veut en disant oh, « Tiens, tu as une chapelle, tu peux me la décorer ?» Non, ça ne se passe pas comme ça. Oui. Tout est contrôlé. Et là, l'endroit où on va mettre tel personnage, etc., n'est pas dû non plus au hasard. Alors, quand vous rentrez dans la chapelle, je suis obligé de faire de la télévision radio.
Oui.
Vous allez avancer un peu, presque jusqu'à l'hôtel, sans marcher de trop sur les céramiques émaillées de Paul Balz. Mmh. Vous allez vous retourner, et là, vous allez découvrir cette annonciation qui se trouvait en deux parties. Si vous regardez bien, il y a une partie basse qui est foncée, dont les teintes sont foncées, et une partie haute, beaucoup plus claire, plus aquarelle. La partie basse, c'est de la peinture à l'huile. C'est du Balz. Paul Balz a été le restaurateur des fresques de Chaly entre 1874 et 1878. Là, je suis sûr de balayer à peu près l'échantillon de son intervention. Donc, la partie qui est en dessous est plus foncée, la partie qui est au-dessus est plus claire. Pourquoi ? Ben parce que peut-être les pigments à l'huile utilisés par Balz ont foncé.
Eh oui.
Peut-être que à la suite de restauration, l'essivage, la fresque, ont été éclaircies.
Oui.
On n'en sait rien. En tous les cas, en 2006, quand il s'est agi de restaurer cette fresque, Jean-Pierre Bablon, qui dirigeait le comité scientifique, a dit bah, « on a deux œuvres bien marquées, on garde la couture ». En dessous, c'est du 19e. Paul Balz est un peintre connu, j'aurai l'occasion de parler de sa carrière. Et au-dessus, évidemment, on a Primatis. Alors, pour en être sûr, bien sûr... En 2006, il a fallu faire des prélèvements. Et on a effectué 72 prélèvements sur la fresque qui ont été ensuite envoyés au laboratoire des monuments historiques de Champs-sur-Marne. C'est pas si loin que ça. Et nous avons obtenu petit à petit, évidemment, les résultats. Les résultats avec le microscope optique, les résultats avec d'autres formules, les spectros et compagnie. Je ne suis pas un spécialiste, mais on continue à découvrir d'autres moyens d'analyser les pigments ou les peintures. Avant, il fallait qu'on prenne un peu de matière. Et maintenant, on a des instruments qui évitent d'être invasifs dans l'œuvre d'art. Donc, grâce aux analyses de Champs-sur-Marne, on a pu essayer de reconstituer, je dirais, l'ensemble des matériaux utilisés. Alors, on va donc... Oui, j'ai oublié le microscope électronique à balayage, le spectrographe. Je ne suis pas dans mon monde, donc j'évite d'être trop disert. On a retrouvé donc, en fonction des pigments, le bleu. Alors, à chaque fois, on va avoir deux analyses. Le bleu du temps de Paul Balz, qui date du 19e, donc vers le bas, et les bleus qui sont utilisés dans le reste de l'annonciation, mais aussi dans les voûtins. Alors les bleus, pour le 16e, on trouve surtout du smalt appliqué à fresque, c'est-à-dire sur enduit frais. Le smalt ou le smalto en italien, smalto, c'est la traduction, c'est émail.
Ah, d'accord. Hein,
voilà. C'est un bleu de cobalt qui ressemble, alors c'est un silicate de potassium, hein, coloré avec de l'oxyde de cobalt, qui peut exister à l'état naturel. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de bleu de Prusse. On le réduit ensuite en poudre, hein, et on peut s'en servir pour colorier les verres aussi, hein, des vitraux, par exemple. Il possède une bonne solidité à la lumière, mais petit à petit, s'il est employé en peinture, on s'aperçoit que les pigments se dégradent, deviennent plus foncés. Par contre, quand ils sont employés pour la fresque, eh bien, ils tiennent. Vous voyez, lorsqu'on voit donc un tableau actuellement, qui a 2 siècles, 3 siècles, voire plus, posons-nous la question, comment était-il avant que les pigments ne se transforment et nous donnent une autre appréciation de l'œuvre qui est devant nous. Alors, pour ce qui est du bleu, donc la peinture le bleu de la peinture à fresque n'a probablement pas bougé. Pour ce qui est de la restauration, on a utilisé de l'outremer et du blanc de plomb. Alors ça, le blanc de plomb, qu'on appelle aussi la céruse.
Ah oui, céruse.
Bah, la céruse, les gens de mon âge la connaissent, on le connaît dans l'utilisation d'antirouille. Vous avez tous connu peut-être le minium, vous savez, cette peinture rouge.
Eh oui.
On avait bien gratté la grille de papa et maman, puis après il fallait passer le minium. Eh bien, c'était terriblement toxique.
Oui.
Depuis, il a été
interdit.
Il a été interdit. Oui. Mais c'est un très bon pigment. Hein. Donc le blanc, ça s'appelle aussi la céruse ou la litharge. Je ferai une petite parenthèse encore une fois. La litharge, on s'en servait aussi pour le vin. Aussi bizarre que cet oxyde de plomb, on le mettait dans le vin qui était trop acide et ça permettait de le sucrer.
Oui.
Bon, vous imaginez.
J'espère qu'on en met moins.
Bonjour les dégâts. Hein, avec la maladie qu'on appelle le saturnisme. Oui. Bien, nous allons quitter le domaine viticole pour revenir au domaine plus coloré. Et on va changer de couleur puisqu'on va étudier un peu les rouges. Alors bien sûr, le rouge de luxe, c'est la cochenille. Ben non, on n'en a pas trouvé. Hein. Ce sont des ocres rouges qui sont utilisés. Des ocres rouges sont des minéraux, c'est comme du sable. Vous connaissez peut-être les ocres du Rustrel, dans le sud-est de la France.
Oui.
Mais les ocres, on en a aussi dans l'Yonne. Hein. Il y a des carrières d'ocre. Il y en avait aussi dans notre région. Donc on utilise donc cette terre naturelle qu'on va mélanger avec, la plupart du temps c'est de l'eau, parfois l'intervention d'œufs. Pour ce qui est du 19e, encore du blanc de plomb qu'on va mélanger avec des terres rouges. Quoi. C'est pas très différent de ce qui était utilisé, sauf cette fameuse céruse qui revient d'une façon trop souvent, hein, je devrais dire. Pour le vert, alors le vert, on pense que c'est une terre tellement difficile à maîtriser qu'on l'a probablement passé à sec. C'est donc un peu une exception. C'est-à-dire que comme on est obligé de détremper le vert, la terre verte, eh bien, on va peindre directement, mais en délayant beaucoup, donc ce qui fait que le vert va quand même rentrer dans l'enduit. Mais on ne va pas trop, évidemment, l'utiliser dans l'enduit frais, parce que ce coup-ci, ça va disparaître. On aura un soupçon de vert qui va disparaître dans l'enduit après. Donc, la polychromie, maintenant, ben, on retrouve la même chose. On va avoir quand même, pour les verts, des colorants. Au 19e, c'est vraiment l'explosion des colorants synthétiques. La chimie est reine. Hein.
Oui.
Et d'ailleurs, les impressionnistes, ils peuvent se promener parce que leur peinture elle est dans un tube qui était au départ du plomb.
Hein. Oui, aussi.
Et ils peuvent se promener avec. Donc, du blanc de plomb pour le vert, etc. Pour le jaune, et je terminerai par là, c'est de l'ocre jaune. Hein. Souvent, lui aussi, appliqué pour partie, je dis souvent, mais je préférais pour partie à sec. Hein. C'est du jaune déteint de plomb. Et de plomb. Et on reprendra à peu près la même technique au 19e, l'ocre jaune, pareil, dans lequel on va mélanger d'autres jaunes. Il y a un jaune de chrome, il y a aussi ce qu'on appelle le jaune de Naples. Ce sont des variétés, évidemment, de jaunes dans lesquelles je ne veux pas rentrer. C'est difficile, surtout, le faire à la radio. Alors, le dessin, c'est bien beau. Mais comment on va le reproduire? Eh bien, on va faire un calque, on va faire un dessin à l'échelle 1. C'est-à-dire, je vais faire un dessin, pas en entier, c'est en morceaux, hein, mais à l'échelle exacte. Et lorsque je veux peindre quelque chose sur l'enduit frais, je vais poser mon calque. Si vous voulez, ce calque, ça ressemble un peu au patron qu'avaient les couturières. Moi, je me souviens, ma mère, elle avait une espèce de papier de soie. Sur ce papier de soie, le morceau de tissu qu'elle devait découper était figuré par des petits points.
Oui,
qui perçait le papier de soie, et puis on prenait une crêpe bleue, je me souviens de la crêpe bleue, on passait la crêpe bleue sur les trous, hein, et puis on enlevait le papier de soie, et les trous restaient, on avait la silhouette. Eh bien, on utilise cette technique pour la fraise. C'est-à-dire qu'on va poser notre modèle, qui est lui-même percé pour les silhouettes, etc., par ces petits trous. Mais je ne peux pas prendre ma gomme bleue, parce que sinon je m'enfonce dans du frais, ça ne marche pas. Alors je vais prendre une espèce de vaporisateur, et je vais souffler de la poudre grise sur mon calque. Là où il y a un trou, donc la poudre va rester imprimée, en quelque sorte, sur l'enduit frais. Et cette poudre, allez, je vais faire mon singe savant, cette poudre, la plupart du temps, c'est de la pierre ponce qui a été pulvérisée. C'est très léger. Donc ça va pouvoir pénétrer facilement. Et c'est pour ça qu'en français, quand on reproduit plusieurs fois la même chose, on appelle ça un poncif.
Ah oui, aucune idée de ça, moi.
Bon, c'est amusant. Ouais. Ça ne va pas révolutionner l'histoire de l'art, j'en suis bien conscient. Voilà, si vous voulez, une analyse de ces fresques sur le plan des pigments, sachant que d'autres interventions que celles du 19e sont intervenues. Moi, j'ai noté, ça m'a intéressé, parce qu'au début du 19e, alors que les bâtiments avaient été rachetés comme bien national, oui, contrairement à ce qu'on raconte, la chapelle a été complètement préservée, on n'y a pas touché, et même plus, on la restaure. Ah oui, ces méchants révolutionnaires ou ces méchants prévaricateurs, ils sont pas si méchants que ça. Bon, on est dans un abbaye, c'est peut-être un miracle, je ne saurais le dire. Hein. Donc, il y a eu aussi des restaurations. Quand arrive un nouveau conservateur, enfin, c'était même le premier, c'était Louis Gillet, je dis, mais c'est pas possible, tout ce barbouillis qui a été ajouté par-dessus la fresque, que lui pensait être primatiste, d'ailleurs, à l'époque. Enfin, ouais. C'était loin d'être une mauvaise supposition. Eh bien, il décide de débarbouiller, en quelque sorte, la fresque. Mais évidemment, à l'époque, on prenait pas les mêmes soins que l'on prend actuellement quand on intervient dans le cadre d'une restauration. On n'a pas devant nous une œuvre intacte depuis la Renaissance, mais c'est sûrement la plus intéressante de toutes les fresques italiennes qui restent en France, à cause quand même de cet état de fraîcheur, en quelque sorte.
J'ai retenu plusieurs termes. Hein. J'ai retenu le terme d'aquarelle, mais c'est vrai qu'on a une idée d'aquarelle. Il y a une espèce de lumière douce. On est pris dans une ambiance absolument extraordinaire quand on est pris dans ce regard. Donc les restaurations n'ont pas quand même détérioré à ce point-là. Et quand même, on voit une pureté d'œuvre quand même. C'est pas du tout abîmé, c'est vraiment resté très très pur.
Moi, oui,
c'est une ambiance très particulière, je trouve.
Complètement d'accord avec vous. Oui. Il y a une espèce de spiritualité. Oui. Mais ce qui m'étonne, c'est la lumière.
Oui.
La lumière n'est pas choisie n'importe comment. Primatis a choisi la lumière qui éclaire la fresque à midi.
Oui.
Et sur sa fresque, il fait des ombres portées qui correspondent à la lumière réelle.
Oui.
On pense à Saint-Bernard que j'évoquais tout à l'heure. Mm-hmm. Mais alors là, dans la seconde partie de notre émission, on verra quels sont tous ces personnages. On essaye de comprendre. C'est facile de parler de la restauration des pigments, de toutes les études. Mm-hmm. Mais maintenant, notre problème, c'est quel est le message? Qu'est-ce qu'on voulut dire, Hippolyte et Primatis? Mm-hmm. Et souvent, je dois l'avouer, les historiens de l'art rechigne à se lancer, parce que c'est compliqué, sans être méchant. C'est quand même plus facile d'intervenir au niveau scientifique que dans les explications philosophiques, surtout à cette période. Cette période, quelle période ? On est à la fin de la Renaissance italienne, on est encore en pleine Renaissance française. Cette période, donc, a été qualifiée en France de néoplatonisme, mais elle existait évidemment en Italie. C'est un terme qui a été inventé au XIXe siècle. Elle désigne un mouvement philosophique qui s'est développé entre le 3e et le 6e siècle, puis ensuite, qui va influencer les religions monothéistes. Hein. À la Renaissance, on va reprendre ce terme. C'est comme de Médicis, on va l'appeler platonisme médicéen. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Disons que c'est une époque où on va trouver des philosophes comme Marcille Ficin ou Pic de la Mirandole, excusez-moi, qui sont partisans de fusionner l'art, le sacré et le profane. C'est une période de syncrétisme religieux. Alors, syncrétisme, il faut l'expliquer, de fusion des religions entre elles. C'est-à-dire que si vous regardez la fresque de Chali, ben vous apercevez que c'est l'histoire évidemment du Christ, l'Annonciation, Marie atteint un enfant. Sur le plafond, on va trouver ceux qui vont porter la bonne parole, les apôtres, les pères de l'Église, les évangélistes. Et puis ensuite, ça se termine par les instruments de la passion. La passion, c'est la crucifixion, c'est la souffrance en grec, c'est la mort du Christ. Donc on a vraiment une dynamique depuis l'annonce de la naissance jusqu'à la mort du Christ. Mais je peux vous raconter la même histoire à propos d'Hercule. Parce que Hercule, c'est le fils d'une dame terrestre, en quelque sorte, et d'un dieu, Zeus. Il va avoir à affronter un certain nombre d'épreuves, comme le Christ. Là, avant, d'accord, c'était bien sûr les travaux d'Hercule. Et il va terminer par ce qu'on appelle le taux d'affaire du mont Etat, c'est-à-dire qu'il va se suicider, il va se mettre le feu, en quelque sorte. Il ne supporte plus la tunique de Nessus qui le brûle. Et à la suite de cet auto-da-fée, Hercule devient à son tour un dieu du mont Olympe. Donc, vous voyez, Il y a cette volonté de fusionner les religions entre elles, et le grand-père d'Hippolyte, Alexandre VI, l'a très bien montré dans les peintures vaticanes, où on fait appel à la religion, à Isis, etc., à la mythologie égyptienne, par exemple. Donc c'est une véritable volonté d'essayer de retrouver une fusion entre ces religions. Une espèce de nouage du christianisme et du platonisme. On est chrétien si on est platonicien. Bon, je ne veux pas entrer trop dans les détails. Autrement dit, pour moi, ce n'est pas simplement une annonciation qui est mise en scène à Chély. Certes, la partie basse nous représente les personnages habituels, l'archange Gabriel, Marie à genoux qui est là, qui entend le message qui lui est apporté par la colombe auréolée. Auréolée, ça veut dire au sens étymologique entourée d'un cercle d'or. Et tout en haut, on a effectivement Dieu le Père. Il faut noter que à cette période, la chapelle de Chély est un lieu de mémoire qui met en scène la sacralité de la vie de l'esprit, comme on le retrouva d'ailleurs à Hippolyte. Et il y a plein de messages cachés. Et la difficulté, elle est là. C'est réservé quand même au Happy Few, cette histoire. Si vous n'avez pas assez de culture, vous avez du mal à comprendre. Et même si vous en avez un petit peu, vous avez parfois du mal aussi à comprendre, il faut être honnête. Et il y a une expression qui me va bien, c'est si vous regardez une tapisserie à l'envers et vous ne savez pas comment est faite une tapisserie, vous ne pourrez jamais apprécier l'œuvre d'art. Mmh. Et je parlais de Platon tout à l'heure. Au départ, Platon se méfie énormément des artistes. Alors, on verra aussi, évidemment, les références à Hercule, non seulement dans la fresque, mais également à Tivoli. N'oubliez pas que la famille d'Esther avait choisi un ancêtre qui s'appelle Hercule.
Oui.
Et d'ailleurs, sur la fresque, au-dessus de Dieu le Père, il y a le blason, pardon, les armoiries de Ferrare. De chaque côté, vous avez bon, les houppes qui correspondent au titre ecclésiastique. Mais de chaque côté, vous avez un E qui se regarde en miroir, un E qui ressemble à un symbole au symbole de l'euro. Oui. Et qui veut dire « Este » à l'image de « Ercole », »,« Hercule » en italien, « E-E ». Et d'accord. Dans la panse de la lettre, il y a un rameau feuillu avec des fruits jaunes, des fruits d'or,
oui.
Et un phylactère, comme on dit dans les bandes dessinées, un texte sur lequel est noté « Dracone non custodita istomni ab », ça veut dire « Elles ou ils, les fruits d'or, ne sont plus gardés par le dragon toujours éveillé ». Donc, à ce moment-là, Hercule peut les dérober, ce sont les fameuses pommes d'or du jardin des Hespérides, un des travaux d'Hercule. Et comme à la Renaissance, les pommes d'or libérées représentent l'âme débarrassée de ses péchés, l'âme d'Hercule peut monter vers l'Empyrée, vers le paradis en quelque sorte. Voilà une petite explication qu'on retrouve bien sûr dans la fameuse, évidemment, Villa d'Este, à côté de Rome.
C'était « Si Chély m'était compté » avec Jean-Marc Vasseur, attaché culturel et pédagogique de l'Institut de France à Chély.